Les archives d'Afrique, Alain Foka.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
On a volé, surabondamment, en Algérie, on a volé le patrimoine de l'Algérie. L'Algérie est un pays riche, c'est un géant, mais qu'on a mis par terre, parce qu'il y a une corruption des mains. Il faut ouvrir ce dossier. Le pouvoir, jamais un pouvoir, quel qu'il soit, et celui-là, ne sera crédible s'il n'ouvre pas ce dossier, s'il n'a pas le courage d'ouvrir ce dossier.
Condamnés de droit commun, soldats, rebelles, prisonniers, présidents de la République, cette succession d'expressions, de défaveurs et de considérations et de titres prestigieux que l'on pourrait multiplier à foison illustre les étapes de la vie particulièrement agitée de ce personnage qui a marqué à sa manière l'histoire de l'Algérie contemporaine. Ahmed Ben Bella, le premier président de l'Algérie indépendante. Le 1er novembre 1954, un comité révolutionnaire d'union et d'action déclenche une vague d'attentats dans différentes régions du pays pour dénoncer la situation de colonisation dans laquelle vivent 8 millions de musulmans qui ont un statut d'indigène et qui relèvent du droit coranique coutumier. Une trentaine d'attentats plus ou moins désordonnés ont lieu en ce jour de la Toussaint. Récoltes incendiées, gendarmerie bombardée, des bâtiments militaires attaqués, avec la mort de 4 soldats français. Les civils, des victimes européennes, sont aussi à déplorer. On compte au total 10 morts. C'est ce qu'on va appeler la Toussaint rouge ou parfois la Toussaint sanglante, durant laquelle le Front de Libération Nationale, le FLN, manifeste pour la première fois son existence en commettant cette série d'attentats. Ahmed Ben Bella, l'un des meneurs de cette journée du 1er novembre 1954.
Vraiment, on vivait dans une situation de... pas de citoyens de troisième catégorie, quatrième catégorie, ça on le vivait dans notre chair, n'est-ce pas? Je reviens de casino, décidé à casser la baraque, voilà tout simplement.
L'armée française ne va pas les laisser casser la baraque sans rien faire.
Heure troublée en Algérie, où en plusieurs endroits du territoire, une série d'attentats ont été commis dans la nuit qui précéda la Toussaint. À Batna se sont déroulées les obsèques des 3 soldats du camp militaire, assassinés alors qu'ils montaient la garde, tandis qu'au cœur du massif de l'Aurès, Harris recevait les premiers renforts après être resté isolé un jour entier. Un hélicoptère a ramené à Batna Madame Monroe, la jeune institutrice victime de l'attentat de Tifelfel, au cours duquel son mari fut tué. Cependant, des mesures de sécurité amenaient de nouveaux renforts et la lutte s'organisait contre les hors-la-loi dont on pouvait situer les repères dans l'Aurès. À Kenchla, une garde vigilante protégeait la cité et les troupes engageaient l'action. On parle de Fellaga et de complots organisés par certaines ligues musulmanes. Mais l'Algérie ne se prêtera pas au rôle souhaité par les agitateurs. On peut croire que le calme sera vite rétabli.
Ahmed Ben Bella.
Cette armée qui était allée libérer la France... 95% c'est des Arabes, c'est des Tunisiens, c'est des Marocains, des Algériens. La France était occupée, il n'y avait pas d'armée française. Il y avait des officiers français, les meilleurs. Ils sont venus par l'Espagne, qui ont accepté la prison, qui voulaient se battre, qui était formidable. Oui, mais les hommes, 98% c'est des Arabes. Bon, et finalement, il y a Sétif également. Le même jour où on glorifie la victoire des alliés, à laquelle les Algériens, les Marocains, etc., c'est ce jour-là que chez nous, 45 000 morts meurent parce qu'ils ont manifesté. C'est pas vrai, il n'y avait pas d'action. Oui, le parti avait pensé, je vous l'ai dit, mais c'est lui revenu sur ça. Juste une région de l'Algérie, la Kabylie, va faire quelque chose, il va y avoir un maquis, que je récupérerai moi, par la suite, n'est-ce pas, pour... l'action du 1er novembre.
Une action qui va durer bien des années et modifier la face et le paysage algérien. Pendant près de 6 mois, les autorités françaises luttent contre ce mouvement apparemment sans tête. Le pouvoir public sait une chose, qu'une bonne partie des animateurs, des instigateurs de cette révolution sont installés au Caire. Les services français connaissent surtout 2 d'entre eux, Ferhat Abbas et Messali. Mais ni l'un ni l'autre ne sont en cause. Puis vers la fin du mois de mars 1955, deux journaux publient la photo de celui qu'ils présentent, je cite, « comme le plus dangereux des agitateurs ». Ahmed Ben Bella. C'est à la frontière marocaine, à Marnia, qu'Ahmed Ben Bella voit le jour le 25 décembre 1916 ou 1918. Un doute persiste sur l'année exacte, l'état civil de l'époque n'étant pas encore réellement fiable. Il est le fils de paysans marocains berbères de la région de Marrakech, émigrés en Algérie au début du XXe siècle. C'est également dans cette localité qu'il va aller à l'école. Il suit ses études secondaires à Tlemcen, dans l'ouest du pays. Mais il n'y restera pas bien longtemps. Pourtant, tout avait bien commencé à l'école.
C'est pas quelque chose de raisonné, c'est pas quelque chose que je pouvais expliquer. Mais, disons, continuer mes études, qui étaient bonnes, c'est très bon, mais j'étais bloqué. J'ai commencé à faire du sport et devenir mauvais élève. J'ai joué à l'Olympique de Marseille comme demi-centre. Lorsque je suis allé faire mon service militaire, j'ai joué à Marseille. Marseille était champion de France. Et puis, je voulais vous dire, l'équipe de Marseille, c'était six Algériens, six Nord-Africains plutôt. C'était moi, c'était González, c'était Malvi, Doron, c'était Aznar, l'avancement de l'équipe de France. C'était, voilà.
En réalité, Ahmed Ben Bella quitte l'école par colère contre l'un de ses professeurs. C'est de cette rupture que s'installe en lui le sentiment nationaliste. Ahmed Ben Bella.
Au fond de vous-même, dans votre inconscient, dans votre imaginaire, quelque chose se produit. Et alors là, ça compte beaucoup. Moi, quelque chose a été un professeur qui un jour, j'avais 14 ans, 15 ans, qui était un adventiste. C'est une branche, je crois, de... peut-être du protestantisme, je crois. Mais très, très, très pugnace. L'exposé, c'est un peu... chaque fois que l'occasion se présentait, il exposait ses idées. Je me rappelle, j'avais dit, monsieur professeur, il s'appelait Benavides. C'est un nom d'origine arabe, oui, espagnol. J'avais dit, nous sommes jeunes, nous ne comprenons rien ce que vous dites, mais vous dites des choses qui nous blessent. Nous nous sommes attachés à l'islam, nous sommes des musulmans, et vous, des fois, vous émettez des jugements, notamment sur le prophète, qui nous gêne. J'étais jeune, je ne sais pas comment je l'ai dit, j'étais maladroit, moi, vous savez, à 14 ans, 15 ans. Et je me rappelle, il m'avait dit une phrase terrible, qui aujourd'hui encore me suivra jusqu'au moment où je mourrai. Il m'a dit, Mohamed est un imposteur.
Un affront, une insulte insupportable pour le jeune lycéen qui arrête donc ses études secondaires à Tlemcen dans l'ouest du pays pour partir en France. Il vient pour son service militaire.
Français, nous voulons rester libres. Nous voulons la paix. Mais nous ne pourrions accepter de nous soumettre aux relations de la violence où règne de l'injustice.
Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander. Il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces heures, pendant ces dures épreuves, et fassent taire leur angoisse sans n'obéir qu'à leur foi dans le destin de la patrie.
Si les forces de la liberté triomphent finalement de celle de la servitude, quel serait le destin d'une France qui se serait soumise à l'ennemi? L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, les forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance.
En ce début d'année 1940, la France entre dans une période de forte turbulence. C'est le début de la Seconde Guerre mondiale contre l'Allemagne nazie. Le jeune nationaliste Ben Bella va rejoindre les forces françaises libres au sein du 5e régiment des tirailleurs marocains. Lors de la campagne d'Italie en 1943, il participe à la terrible bataille de Monte Cassino.
Là, c'est drôle. Bon, moi, je devenais finalement un homme dangereux. J'avais un dossier. J'étais déjà quelqu'un de bien typé, etc. Donc dangereux. Et au lieu de m'envoyer donc dans une unité algérienne, on m'a envoyé pour me faire liquider. On m'a envoyé avec les tabors. Vous savez, les tabors, c'est les unités qui attaquent la nuit et qui ne tiennent pas une position. Non, qui viennent pour faire sauter les verrous. Ça, là où ça ne va pas, où ça résiste trop, bon, ils viennent, ils attaquent la nuit. Et voilà, je me trouve dans une unité comme ça, hein, marocaine, alors que je suis algérien. Bon, je trouve un officier fantastique, un noble, monsieur de Villecourt, qui était capitaine de cette unité-là, et qui avait un dossier comme ça me concernant. Qui m'appelle, il avait son dossier, et qui me dit, tu sais ce qu'il y a là? Je dis, je devine ce que c'est. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est ma mort, je lui dis. Il commence à rire. Il me dit, moi, je veux pas ta mort. Je veux que tu me fiches la paix. Je veux que tu ne fasses pas une propagande contre la France. Ce sont des unités spéciales d'élite marocaine. Et on fait un bail, tu ne fais pas de propagande contre, tu fais ton devoir, tu te bats, etc. Je te fiche la paix, moi, ce dossier. J'ai dit oui, j'en fais ce bail. Voilà comment ça a commencé. Le capitaine de Villecourt, je lui sauverai deux fois la vie. Une fois, parce qu'il est alsacien, il est pris. Parce que vous savez, on était ensemble, hein, on était à 10 mètres, 15 mètres ensemble, et on se mélangeait finalement à 2000 mètres, 2500 mètres d'altitude, dans le feu de la bataille. Et à un moment donné, il est pris. Il est pris et il doit être exécuté sur le champ par les Allemands, parce que leur loi, un Alsacien, c'est un ennemi s'il passe, c'est une trahison s'il passe en face, c'est les Français. Et lui, il était passé. Et il va être exécuté. Hein. Et c'est moi qui le sauve à coups de grenades la nuit, parce qu'on a failli le tuer aussi, parce qu'on ne peut pas envoyer des grenades dans un tas comme ça. Mais finalement, il n'a pas été touché, on l'aura enlevé. Ça, c'est la première fois. La seconde fois, il est dans le même endroit qu'un jour après. Il est grièvement blessé. Et s'il passe la nuit, on était bon à 0,5, 0,6, la température. S'il passe la nuit, là-bas, à 3000 mètres d'altitude, il a la gangrène, automatiquement. Et donc, je le prends sur mon dos, je demande des volontaires, et ils le descendent presque 3000 mètres d'altitude, toute la nuit, et il est opéré, il est sauvé. La grande attaque qu'on fait sur la ligne Gustave, la ligne Gustave, c'était un peu la ligne Maginot, vous savez. Cette ligne, ben on l'emporte, hein. On a des pertes terribles, et c'est la porte de Rome. On court derrière les Allemands, ils se sauvent, ou bien ils nous... Mais comme c'est des combattants, c'est des gens qui savent se battre, etc., de temps en temps, ils s'arrêtent. Ils mettent leurs chars, les premiers, vous savez. Finalement, on se trouve face à des chars, à 20 mètres, 30 mètres, on est descendu comme des... Et donc, j'organise une résistance avec ceux qui restaient, avec les officiers qui étaient derrière, etc. Et on repousse les Allemands.
Ben Bella va également participer à la libération de la France en 1944 et à la campagne d'Allemagne en 1945. Promu adjudant, il est cité 4 fois, dont 2 à l'ordre de l'armée, et décoré de la médaille militaire par le général de Gaulle en personne.
J'étais décoré à la Deuxième Guerre mondiale, mais en France, en battant en France contre l'aviation allemande. Nous avons descendu des avions sur Marseille qui sont venus, n'est-ce pas? Et personnellement, j'étais un de ceux qui avaient descendu ces avions. On avait descendu pas mal d'avions des Stuka qui sont venus bombarder le port de Marseille. Et donc, j'étais décoré là, j'avais une croix de guerre. Mais j'étais appelé, n'est-ce pas? J'étais simplement appelé. Je vais vous dire quelque chose, je vous le dis sans, mais uniquement pour un peu vous mettre dans l'ambiance. J'étais un des seuls à me battre tellement il y avait un sentiment de lâchage comme ça, vous savez. Les types qui étaient avec moi, pas tous, parce que finalement c'est avec les types qui m'ont suivi. J'étais sous-officier à l'époque, que nous allons nous vraiment défendre Marseille, tirer sur les échapper par miracle, vous savez, parce qu'on était sur la jetée, on était bombardés. Bon, les obus tombaient à gauche ou à droite, mais très près de nous. Hein. Et c'est comme ça qu'on a pu finalement faire tomber pas mal d'avions. Et je vous assure, je l'ai fait un peu contre la volonté de tous mes amis qui étaient là, qui étaient sous officiers. J'ai été même, j'hésite à vous dire ça.
Ah non, allez-y.
Ouais. Ben j'étais menacé, vous savez, d'être liquidé si je tellement il y avait cet esprit de, vous savez, de lâchage, hein, qui avait touché un peu pas mal de gens, etc., de virer d'abandon, etc. Et parce que moi j'ai dit non, moi je tire. Etc. Quelqu'un était venu de la part des officiers me dire qu'est-ce que tu veux faire toi, tu veux, je dis non, moi je tire, voilà.
Reims est le nom de la justice, Berlin est le nom du châtiment. Deux jours après les signatures de Reims, le maréchal Seder, représentant le général Eisenhower, arrive à Timpelhof pour présider aux côtés du maréchal Lioukoff à la ratification de la reddition. Il y est suivi par le général Delattre de Tassigny, venu représenter l'armée française. Et c'est là qu'arrive presque en même temps le maréchal Keitel, chef d'état-major de Hitler. Une salle de l'ancienne académie militaire. Lioukoff et les alliés d'un côté. De l'autre, Keitel et ses acolytes, l'amiral Friedenburg et le général d'aviation Stumm. Drame à deux voix. Lioukoff demande, êtes-vous prêt à signer? Keitel n'a qu'un mot, ya. Et il y a un terrible silence dans lequel on n'entend que le bruit d'une plume sur le papier. Comme c'est silencieux, l'abdication d'un peuple.
Actuellement, c'est une ambiance extraordinaire. Toute la foule qui s'est trouvée place de la République marche de la place de la République à l'Opéra et les chars, les chars à bancs, les chars avec les gros chars américains partent surchargés de gens. Et vous entendez tout le monde chanter des chansons, pousser des cris en l'honneur de la victoire. Et il y a des choses extraordinaires, nous voyons des jeunes soldats, des soldats qui avancent, ils sont une vingtaine, ils tiennent un drapeau et devant eux arrive une vingtaine de jeunes filles et immédiatement les jeunes filles se précipitent sur l'enlèvement, sur les jeunes gens. C'est un enlèvement de soldats par des jeunes filles parisiennes. C'est absolument charmant.
Alors qu'à Paris et dans toute l'Europe, hormis bien sûr l'Allemagne, on célèbre la fin de la guerre et la chute du nazisme, que la presse affiche partout la liesse populaire, la joie des territoires libérés, un événement particulièrement sanglant va convaincre le jeune Ahmed Ben Bella, à peine démobilisé, à s'engager dans une autre lutte, celle du peuple algérien. Le massacre de Sétif, où des milliers de personnes qui célébraient la fin de la guerre vont être massacrées. Une tragédie qui va marquer un tournant dans sa vie, comme nous allons le voir dans la suite de cette série d'Archives d'Afrique que nous lui consacrons. Rendez-vous donc juste après une nouvelle édition du journal du RFI pour vivre cette journée sanglante du 8 mai 1945 et la suite. L'incidence qu'elle va avoir sur l'Algérie et la vie de Ben Bella. À très vite, restez à l'écoute.
Les Archives d'Afrique, Alain Focat.
Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Je veux devenir un vrai Algérien, c'est tout, un vrai. Mais je voudrais qu'un jour ce nom soit synonyme de tolérance, de grandeur, tout ça, voilà. Un vrai Algérien.
Une chose est certaine, ce militant pourtant d'aspect taciturne, de teint et de regard sombre, les yeux très souvent fixés à terre pour y concentrer sa pensée, aura marqué à sa manière l'histoire de l'Algérie contemporaine dont il fut le premier président de la République, à l'indépendance. Une consécration après un parcours particulièrement agité. Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Ahmed Ben Bella.
À
Actuellement, c'est une ambiance extraordinaire. Toute la foule qui s'est trouvée place de la République marche de la place de la République à l'Opéra, et les chars, les chars à bancs, les chars avec les gros chars américains partent surchargés de gens. Et vous entendez tout le monde chanter, chanter des chansons, pousser des cris en l'honneur de la victoire.
Après avoir participé aux différentes campagnes militaires contre le régime nazi, Ben Bella peut lui aussi se réjouir de cette victoire qui met fin à plusieurs années sanglantes de guerre à laquelle les siens, comme les Africains et d'autres, ont payé un lourd tribut. Ce 8 mai 1945 est le jour officiel de la fin de la guerre. En Algérie aussi, on a décidé de célébrer cet événement par une manifestation pacifique. Pour fêter la fin des hostilités de la Seconde Guerre mondiale et la victoire des Alliés sur les forces de l'Axe, un défilé est organisé. Les partis nationalistes algériens, profitant de l'audience particulièrement donnée à cette journée, décident par des marches pacifiques de rappeler leurs revendications. Les assétifs, un policier tire sur Bouzi Sahal, un jeune scout musulman tenant un drapeau de l'Algérie, et le tue. Ce qui déclenche une émeute meurtrière des manifestants avant que l'armée n'intervienne. C'est le massacre. Il y a parmi les Européens 102 morts et autant de blessés. Le nombre des victimes algériennes est encore beaucoup plus important. Difficile à établir, il est encore sujet à débat 70 ans plus tard. Les autorités françaises de l'époque fixent le nombre de tués entre 1020 et 1340, selon le rapport du général Paul Tuber. Le gouvernement algérien avance par la suite le nombre de 45 000 morts.
Dizaines de milliers, Algériens, Tunisiens, Marocains et Pieds-Noirs se battent au coude à coude contre le nazisme. Trois des six chefs du 1er novembre sont parmi eux. Ils viennent délivrer une métropole que la plupart ne connaissent pas. Les survivants musulmans qui ont combattu pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes sont résolus à en faire profiter leur pays. Pour les Alliés, c'est la victoire. Mais le Maghreb nationaliste bouge. En Algérie, les nationalistes réclament plus que l'égalité toujours refusée. À Sétif, ils manifestent en faveur de l'Algérie libre et indépendante.
La police arrache leur banderole. Un scout algérien est tué. C'est l'émeute. 104 Européens abattus. La répression est impitoyable. Au moins 15 000 morts. 45 000 affirmera plus tard le FLN.
L'armée fait défiler les tirailleurs algériens qui n'ont pas tiré. Mais alors que l'émeute se calme à Sétif, dans le même temps, d'autres éclatent au cri de djihad dans la région montagneuse de Petite Kabylie, dans les villages entre Boudji et Djijeli. Des fermes européennes isolées et des maisons forestières sont attaquées et leurs occupants assassinés. Le mouvement s'étend très rapidement. Et le soir même à Guelma, une manifestation s'ébranle. Le sous-préfet Achiari, un ancien résistant, fait tirer sur les manifestants. On relève un mort et 6 blessés parmi eux, 5 blessés dans le service d'ordre. Le cortège se disperse. Le sous-préfet dispose de 3 compagnies de tirailleurs en formation, tous musulmans. Il consigne la troupe et fait mettre les armes sous clé. Un bataillon d'infanterie de Sidi Bel Abbès, convoyé par des avions prêtés par les Américains, arrive le 9 dans la journée pour évacuer de petits villages d'Européens qui sont encerclés par les émeutiers. Par un télégramme daté du 11 mai 1945, le général de Gaulle, chef de gouvernement français provisoire, ordonne l'intervention de l'armée sous le commandement du général Duval, qui mène une répression violente contre la population indigène. La marine y participe grâce à son artillerie ainsi qu'à l'aviation. Le général Duval rassemble toutes les troupes disponibles, soit 2000 hommes. Ces forces viennent de la Légion étrangère, des tabors marocains qui se trouvaient à Oran en passe d'être démobilisés et qui protestent contre cette augmentation des services imprévus. Une compagnie de réserve des tirailleurs sénégalais d'Oran, des spahis des Tunis et des tirailleurs algériens en garnison à Sétif, Kerata et à Guelma. La répression menée par l'armée et la milice de Guelma est d'une incroyable violence. Exécutions sommaires, massacres de civils, bombardements de Mechta. Le croiseur Duguay Trouin et le contre-torpilleur Le Triomphant tirent plus de 800 coups de canon depuis la rade de Boujid sur la région de Sétif. L'aviation bombarde et rase plus ou moins complètement plusieurs agglomérations kabyles. Une cinquantaine de mechdas sont incendiées. Les automitrailleuses font leur apparition dans les villages et elles tirent à distance sur les populations. Les blindés sont relayés par les militaires arrivés en convoi sur les lieux. À l'image d'une milice de 200 personnes qui se forme à Guelma sous l'impulsion du sous-préfet André Achiari, qui distribue toutes les armes disponibles, soit les 60 fusils de guerre qui équipaient les tirailleurs et se livre à une véritable chasse aux émeutiers. Pendant 2 mois, l'est de l'Algérie connaît un déchaînement de folie meurtrière. De nombreux corps ne peuvent être enterrés. Ils sont jetés dans les puits, dans les gorges de Kerata en Kabylie. Des miliciens utilisent des fours à chaud pour faire disparaître les cadavres. De nombreux musulmans, dirigeants politiques et militants du Parti du Peuple Algérien, le PPA, des amis du Manifeste de la Liberté AML, dont le fondateur Ferhat Abbas, et de l'association des oulémas, sont tous arrêtés. La répression prend fin officiellement le 22 mai. L'armée organise des cérémonies de soumission où tous les hommes doivent se prosterner devant le drapeau français et répéter en chœur « Nous sommes des chiens » et Ferhat Abbas, un chien. Des officiers exigent la soumission publique des derniers insurgés sur la place des Falaises, non loin de Kerata. Certains, après ces cérémonies, sont embarqués et assassinés. Pendant de longs mois, les Algériens musulmans qui, dans les campagnes, se déplaçaient le long des routes, continuent à fuir pour se mettre à l'abri au bruit de chaque voiture. Peu d'Européens protestent contre ces massacres. La presse, elle aussi, est étonnamment silencieuse sur ce qui se passe. Ahmed Ben Bella.
Pour moi, je dois dire ça aussi. C'est un événement qui m'a complètement... La rupture, je vous parle de rupture, ça a été une rupture. J'étais revenu vraiment content d'avoir rempli un contrat, l'avoir pas rempli d'une façon comme ça. Je l'ai rempli réellement, totalement, vraiment. J'ai pas triché, j'étais pas le seul. J'ai vu des gens tomber à côté de moi, des Marocains, des... J'étais dans une unité d'élite, hein, les gens qui se battaient, qui savaient se battre. Pour les uns, pour la rose, les autres, mais voilà. C'était des gens qui se battaient, qui mouraient. Bon, c'est une expérience. Vous découvrez l'expérience de la mort. En Italie, ça a été la même chose. Et puis, tout d'un coup, paf, les événements de mai. Et alors là, c'est ça, un débat qui était posé, ou même au sein du parti. Par quels moyens ? Est-ce que les moyens politiques peuvent réaliser l'indépendance du pays ? Est-ce que nous pouvons récupérer notre identité par les moyens pacifiques, par... Et alors là, c'est là que les choix ont été faits. D'opposer, disons, la violence à la violence.
Bouleversé par ces massacres de Sétif et de Guelma en mai-juin 1945, Ahmed Ben Bella adhère à l'organisation nationaliste algérienne radicale dirigée par Messali Hadj, le Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques, MTLD. Il se voue dès lors à l'indépendance de l'Algérie. Il est élu en 1947 conseiller municipal de sa ville de Marnia et devient peu après adjoint au maire, Ahmed Ben Bella.
Messali Hadj, lui, était en 46, il était encore à Brazzaville, et la France qui avait frappé, qui avait dissous le parti, s'est rendue compte qu'elle n'avait pas touché le système nerveux, disons, du parti, qu'elle avait frappé, mais que ça tapait à côté. C'est le peuple qui a finalement payé les pots cassés, vous savez. Et voyons cela, c'est un autre langage qui va se développer. Pourquoi ne faites-vous pas une action politique qui peut conduire vers quelque chose qui ressemble à l'indépendance? Et pourquoi donc on fait un congrès? Messali Hadj revient, peut-être il y avait eu des discussions avec lui, n'est-ce pas? Et il vient justement, lui, totalement, disons, convaincu qu'il faut accepter cette façon d'agir, puisqu'on nous proposait d'agir comme ça
dans le champ politique.
Dans le champ politique, pourquoi refuser, etc. Nous venions de perdre 45 000 des notes, etc. Il revenait donc avec ça. Et ça a été convaincant, vraiment, lui convaincant, mais pas moi. Pas moi, pas des jeunes qui étaient venus là, n'est-ce pas? Et qui, eux, vivaient avec le colon, n'est-ce pas? Moi, je pouvais pas marcher dans le boulevard à partir de 4 heures de l'après-midi chez moi à Marnia. Parce que c'est les colons qui étaient là avec les filles, etc. Et qu'il fallait qu'on dégage. Hein.
Ahmed Ben Bella est donc convaincu que l'indépendance ne peut passer que par une phase de révolution violente. Il faut un outil dans lequel opérer. Il est l'un des responsables, avec Hossein Aït Ahmed, de l'organisation spéciale, l'OS, laquelle est chargée par le MTLD de préparer la lutte armée.
Messali Hadj revient, lui dit on va créer un parti politique, etc. Et nous on lui dit Messali, on croit en toi, tu es formidable. Il est formidable. Et on ne croit pas à ceux d'en face qui nous disent non. Donc alors d'accord, on crée le FM, le MTLD, mais on crée une armée. On crée l'OS, l'organisation spéciale. Le même moment où nous créons Le MTLD en Corée-Los.
Pour donner à cette organisation secrète les moyens financiers qui lui manquaient, son chef braque et dévalise le bureau de poste d'Oran et dérobe 3 millions de francs. Ahmed Ben Bella est arrêté par la police française et condamné à 7 ans de prison. Avec l'aide de son avocat, Maître Abderrahmane Kiounan, il s'évade de la prison de Blida en 1952 pour rejoindre le Caire. Au Caire, il retrouve d'autres animateurs de la délégation extérieure du MTLD, le mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques tels que Haïd Ahmed ou Boudiaf, et bientôt Kider, qui aura abandonné son mandat de député à l'Assemblée pour organiser de l'extérieur le soulèvement. Au sein de cette équipe, il se spécialise très vite dans les questions militaires, formation de commandos, achat et acheminement d'armes. Dans la capitale égyptienne, il bénéficie de l'appui du Raïs Nasser. Un événement lointain sur un autre continent en Asie va conforter les nationalistes algériens.
À Dien Bien Phu, où la bataille fait rage sans discontinuer, l'aviation française a mobilisé toutes ses forces disponibles pour appuyer l'action des défenseurs du camp retranché, parachutant sous le feu ennemi hommes et matériels. En même temps, des appareils tracent un cercle de feu dans la jungle qui entoure le camp retranché. C'est en partie grâce à cette action que les hommes du colonel de Castries ont pu repousser 4 fois les assauts des Viennes.
Le 7 mai 1954, après 57 jours et 57 nuits de combat d'une rare férocité entre les soldats du corps expéditionnaire français et les troupes Viet Minh, le camp retranché tombe aux mains des forces du général Vo Nguyen Giap. Il est 17h30. Cet affrontement qui, comme l'a dit l'historien Jean-Pierre Youx, fut la seule bataille rangée et perdue par une armée européenne durant toute l'histoire des décolonisations, va marquer le début de la fin pour l'Empire français. La victoire des soldats d'Ho Chi Minh pèsera sur les négociations de Genève, à l'issue desquelles, le 21 juillet 1954, le président du Conseil, Pierre Mendès France, signe les accords mettant fin à la guerre d'Indochine. Elle durait depuis 8 ans. C'est une défaite qui va avoir un effet psychologique important sur les autres territoires français, mais surtout dans l'esprit des nationalistes, des indépendantistes, un peu partout sur le continent. Ahmed Ben Bella.
Bon, pour nous, c'était symboliquement, c'était quelque chose d'inouï. Indépendamment du reste, il y avait pas mal d'Algériens qui étaient là-bas, et nous pensions sérieusement les récupérer, parce qu'ils avaient participé à cette action. Effectivement, c'est ce qui s'est produit. Beaucoup de ceux-là nous ont rejoints. Il y en a qui sont devenus des officiers de l'armée de libération nationale. Mais le geste en lui-même, le fait en lui-même, politiquement, ça a été une symbolique extraordinaire d'un peuple qui avait développé un esprit de corps, un esprit de solidarité aussi, un courage absolument inouï.
Il est désormais possible de défier la métropole. Le mythe de l'invincibilité est tombé. Alger, dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 1954, vers 1h du matin. L'explosion de 3 bombes à la radio, au gaz d'Algérie et au pétrole mori secoue la ville endormie. Au premier étage du gouvernement général, dans le bureau du gouverneur Roger Lyonnard, se tient peu après un véritable conseil de guerre. En fait, les explosions n'ont causé que des dégâts minimes. Certaines bombes de fabrication artisanale n'ont même pas explosé. Mais les appels téléphoniques et les rapports qui s'accumulent sur le bureau du gouverneur général font état d'une action coordonnée sur l'ensemble du territoire algérien. Dans le département d'Oran, quelques attaques de fermes, quelques récoltes brûlées, quelques poteaux télégraphiques abattus. Peu de choses au total. Mais un Européen venu donner l'alerte a été tué devant la gendarmerie de Kasseigne. Dans la Mitidja, berceau de la colonisation française, des attaques à main armée contre les casernes de Boufarik et de Blida ont été facilement repoussées. Le bilan est déjà plus lourd en Kabylie où l'on compte 1 mort, un garde champêtre musulman tué à Dra el Mizan, et l'incendie d'importants dépôts de liège et de tabac. C'est dans le département de Constantine, traditionnellement plus rebelle que les autres à la domination française, et en particulier dans le massif des Aurès, que les rapports des autorités, le préfet Dupuche et le général Spielmann sont les plus alarmants. Compte tenu de la coordination sur une 30aine de points du territoire algérien d'environ 70 attentats, perpétrés pour la plupart entre minuit et 3h du matin, c'est bien d'une insurrection qu'il s'agit. Celle-ci se solde par 9 morts, 4 blessés et d'importants dégâts matériels. Son déclenchement coïncide avec la diffusion d'un manifeste qui, sous forme de tract, Renée Otipé, abandonnée sur les lieux des attentats ou sur des routes de Kabylie, apprend la naissance d'un front de libération nationale déterminé à conquérir l'indépendance de l'Algérie par la lutte armée.
Heure troublée en Algérie, où en plusieurs endroits du territoire, une série d'attentats ont été commis dans la nuit qui précéda la Toussaint. À Batna se sont déroulées les obsèques des trois soldats du camp militaire, assassinés alors qu'ils montaient la garde, tandis qu'au cœur du massif de l'Aurès, Harris recevait les premiers renforts après être resté isolé un jour entier. Cependant, des mesures de sécurité amenaient de nouveaux renforts et la lutte s'organisait contre les hors-la-loi dont on pouvait situer les repères dans l'Aurès. À Kenchla, une garde vigilante protégeait la cité et les troupes engageaient l'action. On parle de fellaga et de complots organisés par certaines ligues musulmanes. Mais l'Algérie ne se prêtera pas au rôle souhaité par les agitateurs.
Avec cette vague d'attentats commence une nouvelle ère pour les nationalistes algériens. Et si les autorités à Paris semblent ne pas lui accorder une attention particulière, ces acteurs, eux, sont bien préparés à conquérir leur indépendance par ce moyen, la violence. Ahmed Ben Bella et ses compagnons qui ne font plus confiance aux autorités françaises sont-ils suffisamment outillés pour mener la guerre à la métropole? Qui les soutient dans cette bataille? Une chose est certaine, les mois qui vont suivre s'annoncent agités comme nous allons le vivre la semaine prochaine dans la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Ahmed Ben Bella. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite de la série Ben Bella. À très vite.
اسمك دايما في فمي يا أمي يا أمي يا أمي اسمك دايما في فمي من يوم اللي عيني شافوا الدنيا شافوك يا أمي العزيزة موحل ننسى